Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirika.
Okapi.
Seconde édition de vos nouvelles avec en titre le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, demande instamment au président Paul Kagame de faire preuve de retenue en ce moment où des sources crédibles et cohérentes font état de l'appui des forces rwandaises aux côtés des rebelles du M23 contre les FRDC au Nord Kivu. Des journalistes africains en forum ici à Kinshasa, objectif, les sensibiliser sur le traitement des informations judiciaires en améliorant davantage la visibilité des victimes des crimes internationaux. Hausse de prix du ciment à Idiofa depuis deux semaines maintenant, en cause la rareté de ce produit sur le marché dans cette partie de la province de Bandundu. Bonjour à tous. L'ONU a des informations crédibles et cohérentes sur un soutien de l'armée rwandaise aux côtés de rebelles du M23 dans les combats en République démocratique du Congo. C'est ce qu'ont déclaré ce jeudi des diplomates. Selon ces derniers, ces troupes rwandaises se sont infiltrées ces derniers jours au Congo-Kinshasa, ce qui a conduit le secrétaire général Ban Ki-moon à contacter le président rwandais Paul Kagame pour lui demander de faire preuve de retenue. Jacques-Yves Molima.
Ces troupes rwandaises se sont infiltrées en RDC durant ces derniers jours, a affirmé ce diplomate cité par l'AFP. C'est ce qui a conduit le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à contacter le président rwandais Paul Kagame pour lui demander instamment de faire preuve de retenue. Toujours selon l'AFP, le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, Edmond Mulet, a indiqué au Conseil de sécurité que la MONUSCO avait constaté des tirs d'artillerie du M23 sur le Rwanda, alors que Kigali accuse les forces de Kinshasa d'avoir tiré sur son territoire. Et de préciser en revanche que la MONUSCO n'avait pas constaté des tirs sur le Rwanda de la part de FRDC. Les tirs d'artillerie venaient des zones où les FRDC ne sont pas présentes, a-t-il expliqué, avant de qualifier d'intenable la situation dans le Nord Kivu. Notons que la déclaration unanime des 15 pays membres réclame le désarmement et le démantèlement des groupes armés, dont le M23. Elle qualifie également les attaques contre le casquet bleu des crimes en droit international et rappelle la menace du Conseil de prendre des sanctions ciblées supplémentaires contre ceux qui violent l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo.
Et puis en mission à Kigali depuis hier après-midi, le patron de la MONUSCO a rencontré hier la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, et son collègue de la Défense nationale, James Kabarebe. Martin Kobler veut s'assurer sur place de l'engagement du pays de Paul Kagame dans la consolidation de la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'il verra aussi à Kigali les ambassadeurs des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU afin de solliciter leur appui à la MONUSCO dans sa mission de protection des civils. Cinquième jour d'arrêt de trafic routier entre Goma, Lubero, via Rutshuru, au Nord Kivu. Cette situation serait consécutive à une disposition du M23 imposant une restriction des mouvements des civils dans toute la zone sous son contrôle, notamment entre Kiwanja et Kibumba. C'est ce qu'indiquent en tout cas plusieurs sources concordantes dans la région. Du coup, une centaine de passagers en provenance du Grand Nord vers la ville de Goma restent bloqués en ce moment à Rutshuru. À Goma, le récit de Bernard.
La décision annoncée officiellement par certains cadres du M23 imposait une restriction sur les mouvements des résidents de Kiwanja, Rutshuru et d'autres agglomérations du territoire de Rutshuru sous occupation de ce mouvement rebelle. Il est interdit aux populations de se déplacer vers Rundi au nord, Tongo à l'ouest ou Goma au sud. Cette disposition a des répercussions sur l'ensemble du trafic sur l'axe Goma-Rutshuru-Lubero et vice-versa, confirmait l'association des chauffeurs du Congo à Goma. Pour le secrétaire exécutif provincial de la SECO, cette restriction avait déjà commencé depuis le début des affrontements dans la zone de Kibati, Karpat-Tulinabo, Burumba.
Des véhicules qui étaient à Rutshuru avant le début des affrontements sont toujours stationnés à Kiwanja. Les responsables du M23 ils n'acceptent plus que les véhicules quittent Rutshuru, amener les gens à Goma. C'est là où une cinquantaine de nos chauffeurs sont devenus des chômeurs depuis que ces affrontements ont commencé.
Pour des sources de la MONUSCO, une centaine de passagers, comprenant des femmes et des enfants, ainsi que des véhicules venant de Boutembo-Beni pour Goma, sont bloqués depuis lundi à Katale, 50 km au nord de Goma. Les casques bleus de la MONUSCO assurent la protection des voyageurs qui manquent de quoi assurer leur survie. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Des journalistes africains en forum hier et aujourd'hui ici à Kinshasa. Il est question de les sensibiliser sur le traitement des informations judiciaires en améliorant la visibilité des victimes des crimes internationaux. Il s'agit d'un forum régional organisé par des ONG africaines œuvrant dans le secteur de la justice. Selon les organisateurs, il est important pour que les journalistes mettent suffisamment la situation des victimes à jour parce que souvent ils n'ont pas de moyens ni de pouvoir et ils sont les plus souvent oubliés après le procès. Maître Georges Kapiamba, président de la CAJE, l'association congolaise d'accès à la justice, revient ici sur les objectifs de ce forum. Il est au micro d'Agathe Mpona Elema.
D'informer suffisamment les journalistes sur les modalités de saisine de la Cour pénale internationale, mais surtout de la place que la Cour réserve aux victimes. Et ainsi, pousser les journalistes à pouvoir réserver aussi une grande part dans le traitement de leurs activités aux victimes. Ça ne viole pas la neutralité qui est exigée aux journalistes parce que nous avons constaté depuis quelques années que le traitement des informations donne plus de place aux accusés et aux procureurs. Et on a tendance maintenant à oublier les problèmes que connaissent les victimes. Et nous pensons qu'il faut absolument remettre la question des victimes aussi au centre du procès, au centre des traitements journalistiques pour que les gens soient au courant de leurs problèmes.
Et pour la suite du journal, sachez qu'à 5 jours du début à Kinshasa des concertations nationales, certains acteurs de l'opposition qui ont pris part aux travaux préparatoires doutent déjà de la bonne tenue de ce forum. Parmi eux, il y a le député national Clément Kankou. Le président du parti Mouvement pour le Renouveau affirme que deux raisons majeures risquent de gripper la machine. Il y a notamment la défaillance de l'organisation technique, mais aussi le caractère non inclusif de ces assises. Je vous propose écoutez Clément Kankou dans ce propos recueilli par Innocent Olenga.
D'abord, sur le plan technique, je crois qu'il y a des petits soucis. Dans la mesure où les cadres, c'est déjà la semaine prochaine, les gens n'ont pas encore déposé les listes. Les gens qui viendraient de l'étranger ne sont pas encore arrivés. Ceux de l'intérieur ne sont pas non plus invités. Donc, je crois que sur le plan technique, je crains qu'il y ait des petits soucis avec l'organisation. Parlons des objectifs à atteindre. Cohésion nationale. J'ai du mal à croire qu'il y aurait une véritable cohésion si une fracture de la population n'est pas intéressée. Je m'explique. Le président national de l'IDPS, qui représente à lui tout seul une grande partie de la population, n'est pas concerné. Je prends l'exemple du président de l'UNC, qui aussi draine derrière lui une bonne partie de la population et qui n'est pas aujourd'hui partie prenante dans ces concertations. Je crains fort que nous soyons dans un forum qui aura tout simplement un résultat que je peux considérer aujourd'hui comme mitigé. Nous risquons tout simplement de nous retrouver et de bavarder à la fin de ne pas avoir les résultats que le peuple attend de nous aujourd'hui.
L'actualité, c'est aussi la hausse de prix du ciment à Idiofa depuis 2 semaines maintenant. Le sac de 50 kilos, par exemple, est passé de 18 000 à 30 000 francs congolais. En cause, la rareté de ce produit sur les marchés dans cette cité située à environ 600 km à l'est de Kinshasa, dans la province de Bandundu, selon des sources locales. Le vice-président de la FEC, Fédération des entreprises du Congo Idiofa, revient sur les conséquences de la rareté du ciment. On l'écoute au micro de Radio Okapi.
C'est vrai que le ciment est vraiment rare à Idiofa parce que les demandes fortes pendant la saison sèche et puis tout le monde préfère construire pendant cette saison. Il y a aussi une faible production du ciment à l'usine où tous les dépôts qui ravitaillent les centres ruraux sont presque vides à Kinshasa surtout. Il y a aussi entretien des machines, des usines de production. Chez nous, par exemple, à Idiofa, les commerçants, dépositaires, par exemple moi qui vous parle, nous avons peur d'acheter du ciment pendant cette période car les prix varient du jour au jour, demandent tellement fort. Cette rareté avec hausse des prix du ciment crée des conséquences. Donc, les chantiers sont en arrêt, les maçons sont en congé, les grands travaux de réhabilitation des installations de la régie des eaux, par exemple les cas d'Afritec à Idiofa, ils sont bloqués.
Et pour terminer, sachez que la nouvelle société civile du Bas-Congo dénonce le manque du personnel soignant au centre de santé moderne qui avait été construit il y a 2 ans au village Lukamba-Bemba dans le groupement de Singini par le gouvernement provincial. Ce village de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, est situé à plus de 250 km à l'ouest de Matadi. Dénonciation faite hier jeudi après-midi par le coordonnateur provincial de cette plateforme. Selon Jonas Lukoki, de retour d'une mission d'inspection effectuée dans cette partie de la province. Ce centre, équipé en matériel médical, n'a jamais été inauguré ni équipé en ressources humaines. Il demande par conséquent une attention particulière des autorités locales. On l'écoute.
On a construit un centre médical il y a presque 2 ans. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, rien ne va dans ces villages-là. Ce bâtiment médical n'a pas de personnel. En termes de ressources humaines, il n'y a personne qui est affecté là-bas. Mais il y a tout là-bas, le matériel, les consorts, qui puissent aider à soigner les gens. Il y a tout là-bas. Et il y a un silence beaucoup plus élargi. Mais ce qui crée comme inconvénient, les gens quittent de distance. Ils vont à pied d'un milieu à un autre, avec toutes les conséquences que vous pouvez vous imaginer. Ceux qui accouchent le long des routes. Il y a des malades qui vont plus loin si la maladie s'intensifie. On trouve la mort en cours de route. Donc là, il faut qu'il y ait de l'éthique dans tout et chacun de nous, la morale. Nous formulons auprès des autorités provinciales d'équiper d'abord ces centres en ressources humaines pour réduire les dégâts en termes de morts, de mortalité infantile. Parce qu'une femme qui accouche sans femme sage, vous comprenez, en route. Parce qu'il y a une distance entre ces dispensaires et les hôpitaux environnants.
Et pour être plus complet à propos de cette information, notez que le médecin inspecteur provincial reconnaît ce problème. Docteur Oscar Bavoula promet la mise en service prochainement de ces centres de santé et l'envoi imminent d'un personnel soignant dans un bref délai. C'est la fin de votre journal. Merci d'avoir écouté. Très bonne journée sur Radio Okapi.